Chapitre 21. Le meurtre avait été commis le jeudi soir, et la nouvelle s'en était répandue immédiatement sur tous les points de la ville. Esther, qui se trouva naturellement dehors quand la nuit fut venue, avait, en écoutant le récit qu'on faisait de la mort d'Henry Carson, éprouvé le désir d'en savoir davantage, et s'était rendue à Turner Street, sur le lieu même du crime, où elle était arrivée quelques minutes avant l'aube. À l'exception de la trace qu'en tombant le corps du gentleman avait laissée sur la poussière du chemin, rien n'y témoignait de la scène violente qui y s'était passée. Esther traversa la haie d'épines trouée en maint endroit, et supposant que le meurtrier avait pu se réfugier sous le hangar qu'on voyait au bout de l'enclos, elle chercha dans cette direction l'empreinte des pas du fugitif. Mais l'herbe, toute humide de rosée, n'en conservait nul vestige, et probablement personne ne l'avait foulée depuis longtemps. Elle s'arrêta pensive, et elle tâchait de se figurer la position de l'assassin et celle de la victime lorsque les petits oiseaux, qui, à l'approche du jour, commençaient à remuer dans les broussailles, attirèrent son attention du côté de la haie d'épines. Au milieu de cette masse brune que les buissons formaient dans l'ombre, elle crut distinguer quelque chose de blanc dont la vue la frappa. La saison était trop avancée pour que ce fût un flocon de neige, trop nouvelle pour que ce pût être une fleur. Elle s'approcha, saisit l'objet au milieu des menues branches, ce n'était rien qu'un peu de papier chiffonné, mais à la manière dont il était roulé, elle comprit que c'était la bourre du fusil de l'assassin. Le bruit courait dans la ville que Carson avait été tué par l'un de ces malheureux que la faim réduisait au désespoir, et la sympathie de la prostituée était acquise à tous les affamés dont elle partageait la misère. Pensant donc que peut-être cette bourre trouvée par elle, évidemment à l'endroit où le meurtre avait eu lieu et qu'elle venait de rejeter, pouvait servir de preuve et concourir à faire condamner le prévenu, elle revint sur ses pas, la ramassa et sortit précipitamment de Turner Street en prenant le côté opposé à celui par lequel elle était arrivée. Mais lorsque, après avoir marché quelque temps, elle déplia le chiffon de papier qu'elle tenait, quelle ne fut pas sa surprise d'y trouver le nom de Mary Burton ainsi que l'adresse de la jeune fille. Certes, il manquait deux ou trois lettres à l'endroit où le papier avait été déchiré, mais néanmoins, il était impossible de s'y tromper. D'ailleurs, une affreuse pensée lui traversait l'esprit. Elle se méprenait sans doute, il y avait si longtemps qu'elle n'avait vu son écriture. Mais elle croyait la reconnaître. C'était bien celle de Jem. Autrefois, quand elle demeurait chez sa sœur et qu'elle avait les Wilson pour voisins, il lui était souvent arrivé d'employer Jem comme secrétaire intime. Elle se rappelait toujours les merveilleux paraphes qu'elle admirait alors et que le jeune écrivain, dans tout l'orgueil d'un talent qui vient de naître, prodiguait avec un luxe et une aisance dont elle restait éblouie. « Mais non, se disait-elle. Je me trompe assurément. » C'est ma pensée qui se trouble. Jem n'est pas le seul qui sache faire avec sa plume des oiseaux et des guirlandes. Et cependant, elle avait beau le vouloir, elle ne pouvait pas en douter. Ce Ri Burton, au milieu des colombes et d'entrelacs, c'était bien de la main de Jem. Oh, elle comprenait tout. Ce meurtre, c'était elle qui l'y avait poussé. Malheureuse, elle avait osé croire qu'elle pouvait, du fond de son abjection, protéger l'innocence, et maudite qu'elle était, la colère divine l'atteignait dans ses actes, alors même qu'elle rêvait de faire le bien. Pauvre esprit égaré, personne au monde n'essaiera de dissiper ton erreur et de calmer ton effroi. Elle continuait, oubliant qu'il faisait jour, d'errer par les rues et les places, cherchant à saisir quelques détails du procès, en s'approchant des groupes où chacun racontait ce qu'il savait, et disait ses soupçons. Elle écoutait avidement, et serrait dans sa main, jusqu'à faire entrer ses ongles dans sa chair, le papier qu'elle avait peur de perdre, et qui pouvait trahir le prévenu qu'elle désirait sauver. La journée s'avançait. La pauvre fille, tombant de fatigue et de faim, alla dormir dans la cave d'une taverne, et but un verre de gin. Quand elle se réveilla de l'engourdissement qui lui tenait lieu de sommeil, elle sortit, poussée par l'inquiétude, et se dirigea vers l'endroit où la police interrogeait les témoins. Elle pénétra dans la foule et comprit, au peu de mots qui arrivèrent jusqu'à elle, que l'on ne doutait même point de la culpabilité de Jem. son cœur se serra. Non pas qu'elle eût horreur du meurtre qu'il avait commis, elle n'y songeait même pas, mais elle pensait au danger que ce crime faisait peser sur lui. N'était-ce pas le seul être qui eût gardé l'espoir de la rappeler au bien, et qui lui eût parlé sans dégoût, sans qu'un reproche vint effleurer ses lèvres? Elle avait refusé ses offres généreuses, mais ses paroles étaient restées dans son cœur, et il lui semblait la voix du ciel. Que lui importait le crime? Elle ne pensait en ce moment qu'à la douceur de Jem et au péril dont il était menacé. Lorsque, après avoir assisté à l'interrogatoire, elle s'était retrouvée dans la rue, elle avait songé à Mary. Pauvre enfant, comme elle devait souffrir et pleurer, ce gentleman. C'était un coup terrible qu'elle avait dû recevoir en apprenant sa mort. Elle n'avait plus de mère qui pût la consoler, et son père était devenu si violent. Esther frissonna. Burton était pour elle une sorte d'ange accusateur, chargé de frapper et de maudire. Elle prit le chemin qui conduisait chez Mary, afin de se procurer dans le voisinage quelques renseignements sur le compte de la jeune fille. Mais, arrivée près de la cour où se trouvait la maison qu'elle avait habitée autrefois avec sa sœur, elle n'osa pas s'adresser au voisin qui aurait pu la reconnaître. Elle alla s'asseoir sur les marches d'une vieille porte au fond d'une allée sombre. Et là, mettant ses coudes sur ses genoux et cachant sa figure dans ses mains, elle essaya de se recueillir et de former un plan quelconque. Elle savait que Burton n'y était pas, et cette pensée lui donnait du courage. Il faisait nuit, elle se leva, se rendit chez un fripier, changea tout son clinquant pour le chapeau de soie noire, la robe d'indienne et le tartan d'une ouvrière, pauvre vêtement usé qu'elle revêtait avec respect comme étant la livrée de cette classe heureuse à laquelle, depuis longtemps, elle n'appartenait plus. Elle secoua tristement la tête en se voyant ainsi transformée, et songea au devoir facile de cet Éden d'innocence dont elle avait pour toujours fermé l'entrée derrière elle. Comme elle eut travaillé, souffert, jeûné, comme elle fut morte avec bonheur pour un mari, pour des enfants. L'ombre d'un ange traversa le nuage qui lui couvrait les yeux. Elle s'enfuit pour échapper à sa douleur. Vous savez maintenant comment elle se trouvait chez Mary, à cette heure avancée. Elle avait attendu longtemps avant de frapper à cette porte qu'elle n'osait pas se faire ouvrir, et dont l'accès lui semblait interdit. Mais quand la pauvre enfant, sous l'influence du rêve qu'elle venait de faire, et trompée par la ressemblance qui avait existé entre sa mère et sa tante, se fut jetée dans les bras d'Esther, celle-ci n'hésita plus à franchir le seuil vénéré. Elle entraîna Mary vers une chaise où elle la fit asseoir, et la regarda longtemps en silence. Toutefois, désirant conserver aux yeux de sa nièce le caractère de la femme dont elle avait pris le costume, elle affecta une indifférence qu'elle était loin de ressentir, afin de pouvoir expliquer plus aisément comment elle avait pu rester tant d'années sans donner de ses nouvelles, surtout après son mystérieux départ. « Tu ne te souviens plus de moi, » commença-t-elle, « et pour tout dire, il s'est passé bien du temps depuis que je ne vous ai vus. Je pensais toujours venir, mais une chose, une autre, et ton père, c'est que nous demeurons si loin et que j'ai tant d'occupations. Ne me reconnais-tu pas, Mary? Je suis Esther, la sœur. Vous êtes ma tante Hetty ? » demanda la jeune fille, qui cherchait vainement sur ce visage l'éblouissante fraîcheur dont elle avait gardé le souvenir. « Oui, tante Hetty. Oh, il y avait longtemps que je n'avais entendu ce nom. » Et se remettant aussitôt, « J'ai appris aujourd'hui, continua-t-elle, qu'un de tes amis, qui était le mien autrefois, est dans la peine. J'ai pensé que tu en avais du chagrin, et je suis venue pour te voir. » Mary se mit à pleurer, mais elle n'éprouvait aucun désir de s'épancher auprès d'une parente qui ne les connaissait plus et qui, de son propre aveu, les avait négligés si longtemps. « Merci, répondit-elle, vous êtes bien bonne. Peut-être venez-vous de loin, et je n'ai rien ici, rien à manger. Peut-être avez-vous faim après une si longue course. » « Ne t'inquiète pas de ça, » répliqua la pauvre Esther, dont la maigreur disait assez qu'elle jeûnait depuis longtemps. « Nous avons tout en abondance, car mon mari ne manque pas d'ouvrage. Il en a plus qu'il ne peut en faire. J'ai soupé avant de partir, et je n'ai pas faim du tout. » Ces paroles produisirent sur Mary un douloureux effet. Elle croyait se rappeler que sa tante avait toujours été généreuse et dévouée. Comment se faisait-il qu'elle fût changée au point de vivre dans l'abondance et de ne pas même se souvenir de parents aussi proches, qui l'avaient nourrie autrefois et qui aujourd'hui manquaient de tout? Elle se sentait de plus en plus disposée à lui fermer son cœur. Et la pauvre Esther, étouffant ses sanglots pour continuer à jouer le rôle qu'elle s'était imposé, reprit d'une voix qu'elle tâchait d'affermir. « C'est une mauvaise affaire que celle du meurtre de Mr. Carson. » Mary se cacha le visage. Esther, trop agitée elle-même pour observer l'émotion de la jeune fille, ajouta « On dit que James sera condamné. J'en ai peur. Ce matin, j'étais du côté de Turner Street. J'ai voulu voir l'endroit où ça s'était passé. Et par bonheur, j'ai trouvé là ce morceau de papier qui a dû servir à bourrer le fusil du meurtrier. Je ne savais pas quel était l'accusé. Mais n'importe, j'étais triste pour lui. Et je pensais qu'il ne fallait rien laisser de ce qui pouvait aider la police. Les agents ont tant de ruses. Ils tirent si bon parti d'une paille. Alors, j'ai ramassé la bourre. Quand j'ai été un peu plus loin, je l'ai déplié pour voir. Et j'y ai lu ton nom. » Mary regarda sa tante avec surprise. Esther continua sans faire attention à ce regard. « Les agents n'auraient pu s'y tromper. Vois plutôt. D'ailleurs, c'est ton adresse et de l'écriture de Jem. » Mary prit le papier qu'elle étira lentement et resta frappée de stupeur. « C'est bien son écriture, n'est-ce pas ? » demanda Esther. « Vous ne le direz pas. Vous ne le direz jamais !» s'écria Mary, dont la voix était presque menaçante. « Oh non !» dit Esther d'un ton de reproche. « Je ne suis pas assez mauvaise pour le dire. Et tu ne penses pas que j'en sois capable ?» Les larmes lui vinrent aux yeux à l'idée que Mary la soupçonnait d'être assez lâche pour aller dénoncer un ami, un malheureux quel qu'il fût. « Non, je sais bien que vous ne le ferez pas, ma tante. Je ne sais plus ce que je dis, tant la tête me fait mal. Et pourtant, je vous en prie, dites encore que vous n'en parlerez pas. » « À personne, je te le jure, à personne, quoi qu'il arrive. » Mary regardait cette écriture et retournait le papier dans tous les sens. Elle tâchait d'espérer qu'elle se trompait et ne pouvait y parvenir. Esther ne se méprenait pas sur la nature de l'émotion de Mary et sur l'intérêt qu'elle portait à l'accusé. Elle était venue pour voir jusqu'où allait la douleur que la mort du gentleman avait causée à la jeune fille, et s'était servie du morceau de papier que le hasard lui avait fait trouver pour s'introduire chez elle. La remarque qu'elle avait faite relativement à Jem n'avait pas eu d'autre but que de s'assurer des sentiments de sa nièce à l'égard de Mr. Carson. Elle comprenait maintenant qu'elle avait commis une imprudence, en parlant avec aussi peu de mesure de la condamnation qui menaçait l'accusé. « Comme tu ressembles à ma petite fille !» dit-elle après avoir contemplé pendant quelque temps la figure pâle et délicate de sa nièce. Mary leva les yeux d'un air distrait. Sa tante avait des enfants. C'est là tout ce qu'elle avait saisi dans les paroles d'Esther. Oh, si elle avait pu comprendre le désespoir dont la malheureuse était navrée, avec quel amour elle se fût jetée dans ses bras, avec quel abandon elle lui eût ouvert son cœur. Mais sa tante était à l'aise. Elle avait un mari, une famille qu'elle aimait, tout ce bonheur lui était étranger. Ce qui l'absorbait tout entière, c'était ce papier qu'elle pressait convulsivement, cette écriture dont elle voulait s'assurer, tout un mystère qu'elle avait à éclaircir. Pourquoi sa tante ne s'en allait-elle pas? Elle se taisait, ne souhaitant plus que ce départ. Et comme si l'intensité de son désir eût agi sur la pensée d'Esther, l'infortunée comprit que sa présence était à charge et se leva pour partir. Elle avait réussi à dissimuler sa honte, à se faire passer pour la femme d'un honnête ouvrier. C'était là tout ce qu'elle avait voulu. Peut-être demain se réjouirait-elle d'avoir laissé à Mary cette opinion favorable. Mais pour l'instant, elle était sans courage. Partir ainsi, sans un regard de pitié, sans un mot, elle qui avait tant besoin qu'on la plaignît. Il le fallait pourtant, il fallait quitter ces vieux murs, ces dalles usées qu'elle aimait, quitter cette pauvre demeure où s'abritait la misère, pour l'un de ces horribles bouges où le vice se réfugie. « Bonsoir, Mary, » dit-elle à regret. Puis elle ajouta, « Le papier est en sûreté dans tes mains. Seulement, Promets-moi de le brûler avant de t'endormir, comme tu m'as fait promettre de n'en parler à personne. Je vous le promets, ma tante. Vous partez donc ?
Oui, à moins que tu ne désires que je reste, si je pouvais te servir à quelque chose,
dit-elle en reprenant un peu d'espoir.
Non, je vous remercie,
répliqua la jeune fille, qui attendait avec impatience le moment où elle serait seule.
Votre mari s'inquiéterait. Vous me donnerez de vos nouvelles. J'ai oublié votre nom.
Ferguson, dit tristement Esther.
Mistress Ferguson, répéta machinalement la jeune fille. Et vous demeurez à
Angel's Needin, 145 Nicholas Street. Elle rattacha son châle et elle se disposait à sortir quand Mary, touchée du service qu'Esther lui avait rendu en lui apportant le précieux papier, se reprocha la froideur qu'elle avait montrée à sa tante, et ne voulant pas la quitter sans lui témoigner un peu d'affection et de gratitude, s'avança pour l'embrasser. Mais Esther la repoussa d'un geste convulsif.
« Moi ? Oh ! Non, vous ne le devez pas, vous !»
Et la malheureuse s'élança dans la rue, où longtemps elle sanglota dans l'ombre.